à Jacques Fischer et ses invités. Fréquence protestante, le Midi Magazine, Jacques Fischer.
Bonjour, nos invités aujourd'hui sont deux. La parité est respectée. Un homme, une femme, à tout seigneur, tout honneur. Yvonne Gueule, bonjour.
Bonjour.
Redites-moi ce que vous m'avez déjà dit plusieurs fois et que j'ai déjà oublié, parce que c'est un petit peu compliqué. Quelle est votre profession ?
Alors, je suis chargée de clientèle chez un équipementier dans l'automobile.
Merci. Et Carsten Plamann, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, c'est plus simple à dire, non ? Vous êtes chercheur et...
Je suis enseignant-chercheur à l'ENSTA, c'est une grande école d'ingénieurs.
Votre spécialité, c'est la physique ?
C'est la physique, oui.
C'est ça. Alors vous êtes là parce que, n'en déplaise à Louis Pernot, nous avons parlé de la chute du mur, dont l'anniversaire exact était hier, mais on est dans la foulée de cet anniversaire, d'une manière vivante, puisque vous avez vécu cela, vous nous en parlerez dans quelques instants, Yvonne Gueule, vous étiez ce qu'on appelait à l'époque en Allemagne de l'Est. Et vous étiez où exactement ?
Alors moi, je suis d'origine de la Saxe, plus précisément à côté de Dresde, près de la frontière polonaise et aussi près de la frontière tchèque. Donc vraiment à l'Est-Est.
Tout à fait à l'Est, ok. Et vous, monsieur Plamann, vous étiez... À l'ouest, mais vous n'étiez pas à la frontière alsacienne.
Non, j'étais à l'est de l'ouest. J'étais étudiant à Göttingen, à l'université de Göttingen, qui est à une vingtaine de kilomètres du rideau de fer.
Ça, oui. Donc vous êtes tous les deux des témoins tout à fait privilégiés, puisque vous étiez quasiment sur place, non pas à Berlin, mais près de cette frontière dont nous allons parler. Alors, vous nous parlerez tout à l'heure de votre expérience, de vos battements de cœur et de votre regard et de ce que vous avez compris ou des interrogations qui vous sont venues. Mais pour que les choses soient bien claires, nous allons essayer de brosser le tableau, bien que sur toutes les radios, dans tous les journaux, on a vu hier et déjà depuis... dans les journaux depuis un moment, toute une série d'articles et d'émissions qui nous ont abondamment rappelé les circonstances de cette fameuse chute du mur. Mais bon, pour ceux qui auraient été aveugles ou sourds, on va rappeler un certain nombre de vérités premières. La première chose qu'il faut bien cadrer, si j'ose dire, c'est d'abord ces deux Allemagnes. Pourquoi est-ce qu'il y avait deux Allemagnes ? Ça vient d'où ? Qui est-ce qui peut me dire ça très clairement ?
Là, il faudrait faire tout un cours d'histoire, mais bon, évidemment, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait plusieurs parties de l'Allemagne sous occupation des Alliés. Il y avait une zone française, il y avait une zone britannique, américaine, soviétique. Et en fait, assez rapidement après la fin de la guerre, en fait, les clivages entre ces forces sont devenus prépondérants. Donc, quasiment chacun a récupéré sa partie.
Oui, c'est-à-dire que les zones se sont construites, se sont définies à partir de, grosso modo, l'endroit où les uns et les autres étaient parvenus à la fin de la guerre, presque.
Non, tout à fait.
Parce que c'était quand même pour les Russes, enfin pour les Soviétiques, pour être exact, la course pour être avant les autres, puisque les Occidentaux arrivaient forcément de l'Ouest et les Soviétiques de l'Est. Hein, il fallait gagner le plus possible de terrain, en particulier Berlin.
C'est pas tout à fait exact. En fait, les Américains étaient allés plus loin. Les Américains étaient en Tchécoslovaquie, par exemple. Les Américains étaient plus loin au milieu de l'Allemagne. C'était en fait issu de négociations qu'ils avaient faites. Ils ont défini des zones d'occupation. Ils se sont partagés Berlin. Par exemple, les Français n'étaient pas forcément arrivés à Berlin. Et en fait, c'était le statu quo après les différentes rencontres entre les Alliés. Ils ont défini le statu quo pour ensuite voir ce qu'ils allaient faire de l'Allemagne. Et ensuite, ils se sont rapidement révélés qu'ils n'étaient pas d'accord. Et en fait, à l'Ouest, ils ont installé une démocratie. Ils ont installé une presse libre, par exemple. La plupart des grands journaux de l'Allemagne et de l'Ouest ont été fondés sous licence britannique ou américaine en 1946. Et ensuite, etc., ils ont fait marcher le plan Marshall, ils ont essayé, bien sûr, de se construire en allié, si vous voulez, mais ils ont essayé de construire une démocratie en Allemagne de l'Ouest. Pendant qu'à l'Est, assez rapidement, il y avait des montages, par exemple, des installations industrielles qui sont parties en Union soviétique, etc., et ensuite, c'était un pays dans lequel le socialisme réellement existant était censé être installé par le groupe Ulbricht qui avait été formé à Moscou, qui a été installé, etc. Ensuite, en 1949, en fait, les deux partis sont devenus des États plus ou moins indépendants.
C'est ça. Donc on avait un État à l'Est sous régime de type communiste, comme beaucoup d'autres satellites, comme on a dit, de l'URSS dans les pays de l'Est de l'Europe. Et puis, du côté de l'Ouest, la reconstruction, comme vous venez de le signaler, d'une Allemagne avec un gouvernement démocratique, avec des élections libres, avec un système que nous connaissons, même s'il y avait toujours eu des petites différences d'un pays à l'autre. Donc une Allemagne, l'ancienne grande Allemagne, coupée en deux.
Ben, ce n'est pas tout à fait exact non plus, parce qu'il y a un bout de l'Allemagne qui se retrouve en Pologne maintenant. Le pacte Hitler-Staline a été consommé malgré la chute des nazis. Il avait une ligne de zones d'intérêt divisées entre Hitler et Staline. Et en fait, Staline a déplacé la Pologne. Il y a un bout de l'ancienne Pologne qui est maintenant en Ukraine. Lviv, par exemple, Lemberg, c'était une ville plus ou moins polonaise. Et ces gens ont été expulsés vers la Pologne. Il y a une partie de l'Allemagne qui est devenue la Pologne, par exemple là où mon père est né, qui a accueilli ces gens déplacés de l'Ukraine. Et donc il y avait beaucoup, beaucoup de réfugiés, beaucoup d'expulsés, etc. Et la ligne Oder-Neisse, en fait, c'était à l'intérieur de l'ancienne Allemagne.
C'est ça, la ligne Oder-Neisse, pour ceux qui ne savent pas, c'est en effet cette frontière, on en a beaucoup discuté, c'est pas le sujet de notre émission, mais c'était vraiment une affaire à laquelle les Soviétiques tenaient beaucoup et que les Occidentaux ont accepté. Et au moment dont nous allons parler tout à l'heure de la réunification des deux Allemagnes en une seule, c'était l'une des conditions qui n'était pas si simple à accepter pour un certain nombre d'Allemands qui auraient espéré que ça puisse passer autrement. En tout cas, ce qui me semble important, c'est de réaliser qu'un pays devient tout à coup divisé contre lui-même, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut dire, avec deux régimes différents et avec des communications qui seront de plus en plus aléatoires, et on en arrivera au mur dont nous allons parler. Alors je dis à ceux et celles qui nous écoutent, imaginez, revenez en arrière, revenez au temps de l'occupation allemande en France, et puis de la zone libre et de la zone occupée, et des difficultés de communication. Et en plus, on vous met un mur, ce qui n'a pas été le cas en France. Et il y a là comme une espèce de blessure, comment dire, de coupure assez considérable. Donc il faut se mettre dans cette atmosphère pour comprendre. Et quelquefois, les passions se déchaînent. Moi, je me souviens, j'étais parti avec des jeunes faire un camp de ski. Dans le sud, là, je ne sais plus comment s'appelle cette vallée, qui en fait est englobée en Autriche, mais qui est territoire allemand. Bon, bref, peu importe.
Das Kleinwalsertal.
Et nous étions avec des amis d'une paroisse allemande. Mais nous n'étions pas tout seuls dans le chalet où nous logions. Et en particulier au moment du repas, bon, ben, il y avait d'autres groupes et puis des groupes d'adultes. Et le pasteur allemand qui était là expliquait aux uns et aux autres que ben oui, l'Allemagne était coupée en deux, mais qu'il fallait peut-être respecter un certain nombre de choses. Et à la table d'à côté, une dizaine d'Allemands se sont levés en hurlant, en disant « Comment vous acceptez la partition, la séparation? Vous êtes un traître à la patrie, etc. » Les passions étaient tout à fait exacerbées, parce qu'en effet, lorsqu'on est un peu attaché à son pays, le voir divisé en deux, c'est pas l'idéal.
Ben, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer quel effet ça fait de le voir divisé. Moi, je suis né à Lübeck, j'ai grandi à Lüneburg, j'ai fait mes études à Göttingen. Donc, c'était toujours très près de la frontière entre les deux Allemagnes. On parle beaucoup du mur de Berlin, mais en fait, cette frontière, il y avait un millier de kilomètres, elle était très existante aussi. C'était comme le muraille de Chine à travers les collines, etc. Et l'Allemagne était coupée en deux au point où les ponts, par exemple, étaient coupés en deux. Chez nous, c'était la zone britannique, donc il y avait un panneau des Britanniques que tel et tel pont n'était pas praticable. Donc c'était understatement britannique, mais c'était coupé en deux. Et on était souvent là, entre autres avec les groupes français. Ma mère était enseignante de français. On leur a montré ça. Il y avait toujours cette colère élémentaire contre ces crimes de partager tout un pays au milieu.
Alors, vous n'entendez pas encore la voix de Madame Gull, mais ça va venir, rassurez-vous, elle va tout nous dire après. Mais Madame Gull, vous nous avez dit, avant d'entrer dans ce studio, qu'au moment de la chute du mur, vous aviez 11 ans.
Tout à fait.
Hein? Et que donc, en effet, tout ce qui s'est passé avant, c'est quelque chose qui s'est passé à un moment où vous étiez fort petite.
Voilà, tout à fait.
Et donc vous n'êtes pas spécialiste de cette histoire-là. Voilà pourquoi, pour l'instant, vous êtes un peu muette, mais ça va changer.
Juste quant à la séparation, justement, ce que Karsten disait sur la séparation, c'est aussi pour les familles. Moi, je l'ai vécu, par exemple, ma grand-mère était la seule qui avait de temps en temps, je crois deux fois dans sa vie, la permission d'aller voir de la famille, certes éloignée, mais dans l'Ouest. Et c'est la seule. Parce qu'elle elle avait des enfants, des petits-enfants, et donc on était sûr qu'elle allait revenir. Mais par exemple, mon grand-père n'a jamais eu la permission. Et à chaque fois, je me rappelle, petit, c'était des manœuvres de la famille de l'Ouest à écrire des invitations officielles, à envoyer tout un tas de papiers pour que ma grand-mère puisse participer à des anniversaires, des choses comme ça. Donc, et ça deux fois. Donc, c'est vraiment une séparation aussi, pas seulement géographiquement, mais les familles aussi.
Alors, est-ce qu'on peut dire très très vite ceci, que la chute du mur à laquelle nous arriverons, c'est pas un événement isolé, unique et qui dure quelques instants. Il y a quand même tout un mouvement. 10 ans avant la chute du mur, c'était en Pologne, Solidarność. C'était déjà, donc Lech Walesa, d'ailleurs, il était hier dans les cérémonies. C'était donc ce mouvement de protestation et d'espérance d'une conquête de la liberté par le peuple lui-même. La chute du mur, c'est... Bon, puis il y avait déjà eu en Allemagne de l'Est, en 1953, des manifestations réprimées très durement par le régime, hein, les manifestations ouvrières en pays d'obédience communiste, hein, qui protestaient contre la situation. Donc la chute du mur arrive à l'intérieur ou au bout de tout un mouvement. Et il y avait eu aussi... Alors si je dis, je ne sais pas ce que vous en pensez, si je dis que pour un dirigeant communiste... pour un parti communiste d'URSS, etc., la révolution, le modèle soviétique, l'objectif, c'est que ça se répande dans le monde entier. Hein? Alors déjà, il y a tous les pays de l'Est qui sont tombés sous la coupe de l'URSS, mais il faut encore gagner du terrain, puis ça continuera même encore, j'allais dire, relativement récemment, lorsque les Russes ou les Cubains, régime marxiste, en Afrique, se sont installés en Éthiopie par exemple, ou en Angola, c'est un petit peu différent. Et puis en Asie, ça a été évidemment la Chine de Mao, régime communiste, puis le Vietnam de l'oncle Ho, Ho Chi Minh. L'expansion du communisme. Et donc, il y avait toujours cette idée qu'un beau jour, l'Europe continuerait à être gagnée par les idées communistes, et avant même que le mur soit construit. Il y avait eu cette tentative du blocus de Berlin. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus, M. Plamann?
Ben là, on ne peut pas refaire l'histoire du monde entier.
Non, non.
En fait, le blocus de Berlin, c'était un épisode, si vous voulez, dans le jeu de rapport de force entre le bloc de l'Est, si vous voulez, et le pays de l'Ouest. En fait, la RDA considérait Berlin comme sa capitale, par exemple.
Oui, il faut aussi qu'on imagine géographiquement que Berlin, divisé en zones, comme l'ensemble du pays, britannique, américaine, française et soviétique, la partie occidentale, les Britanniques, les Américains et les Français, se trouve englobée dans l'Allemagne de l'Est.
Tout à fait. Et tout ça, c'est à 60 km de la frontière polonaise.
Eh oui. Donc, il n'y a pas de liaison géographique apparente entre ce Berlin-Ouest et l'Allemagne de l'Ouest. Bon, il y a des possibilités. Et les Soviétiques font le blocus, c'est-à-dire coupent toute possibilité de contact, en espérant, comme disait un politicien de RDA, que Berlin un jour tomberait dans l'escarcelle RDA et soviétique comme un fruit mûr, que ça allait être gagné. Ça n'a pas été le cas, parce que les Occidentaux ont fait, je ne me souviens plus le nom du général américain qui a organisé ça, un pont aérien.
On pourrait rien, oui, Luftbrücke, c'est...
Une noria, un aller-retour sans arrêt d'avion qui apportait tout ce qui était nécessaire à la vie, la nourriture, les médicaments, etc. Et donc, Berlin est resté comme il était.
Berlin de l'Ouest a tenu. Et ensuite, cette tentative soviétique a échoué. Ensuite, après coup, il y a eu des négociations, il y avait des autoroutes que les Allemands de l'Ouest pouvaient prendre vers Berlin, etc. Mais... En fait, cet épisode a aussi beaucoup joué dans la perception des Américains, par exemple en Allemagne. Ça n'a rien à voir avec la perception des Américains en France. C'est l'allié par défaut, si vous voulez. Il nous a soutenus dans ce genre de situations. Donc, évidemment, en fait, vous avez dit expansion du communisme dans les pays différents. Pendant tout ce temps, les Américains ont soutenu tous les salauds en Amérique du Sud, par exemple. Donc, ce n'était pas forcément... le blanc et le noir. Mais de cette époque, il est resté une espèce d'a priori positif vers les États-Unis d'Amérique, en Amérique de l'Ouest.
Alors ce blocus, c'était 1948-49, c'est raté. Et je voulais qu'on le signale parce que, il va falloir trouver autre chose pour la RDA et pour Moscou. Et cette autre chose, ça sera finalement la construction du mur, qui sera beaucoup plus tard, puisque ce sera 1961. La construction du mur. Alors, ce mur de quoi, 4 mètres de haut, si je me souviens bien, quelque chose comme ça.
Bah, à peu près, oui.
Depuis, on a battu, je crois qu'en Israël, c'est 8 mètres, la hauteur de la clôture.
C'est un autre sujet.
C'est un autre problème. Bon, le mur, et puis comme vous le signaliez, Carsten Plamann, ce mur de Berlin qui se prolonge par cette frontière électrifiée, barbelée, etc., avec une zone,
Bah, il y avait des champs de mines, il y avait des endroits, il y avait des chiens, il y avait des tours à des distances régulières où on se faisait tirer dessus, etc. C'était,
voilà. Bon, alors maintenant on va catapulter le temps et on va arriver à la chute du mur qu'on vient de construire il y a 3 minutes. C'est-à-dire que, il va y avoir ce... Alors, ça ne s'est pas passé... D'abord, si, une question. Est-ce que vous, l'une et l'autre... Vous avez été surpris ou est-ce que c'était l'aboutissement naturel de ce qui bouillonnait depuis un moment ?
Alors nous, dans l'Est, je me rappelle l'été avant, on sentait beaucoup de tension. C'était vraiment la tension était montée, on se méfiait encore plus des gens, des voisins, on ne savait pas. On entendait beaucoup des gens qui sont partis via la Hongrie, à Prague, etc. Donc, nous, comme il n'y avait pas de presse libre, c'était plus par le bouche à oreille, par les collègues au travail, à l'école qu'on entendait. Donc, il y a une tension beaucoup plus accrue. Après, je me rappelle aussi, dans les grandes villes, il y avait plus de patrouilles, plus de contrôles. Il fallait faire attention aussi après septembre, octobre, le soir, qu'on rentrait bien. On sentait la tension monter. Après, je pense que la chute du mur, pour nous, c'était vraiment une surprise. On n'y croyait pas. Mmh. On n'y croyait pas. Et même, j'en ai rediscuté avec mes parents, mes grands-parents. C'était... on croyait encore qu'ils vont refermer à un moment. Ah. Voilà, c'était un cadeau de Noël et que après Noël ils vont tout refermer et voilà, c'est fini. Donc c'est pour ça aussi, je pense, cet afflux au début, tout le monde y allait pour aller le voir.
Oui, je vais vous donner la parole, Carsten Plamann, mais pour dire de l'autre côté de la frontière, si c'était aussi la surprise, mais vous venez de faire allusion, Yvonne Gull, à la Hongrie, et en effet, il faut savoir que là aussi, la chute du mur, c'est pas arrivé en 30 secondes, il y a eu tout un mouvement, en effet, dont le régime était encore un régime, évidemment... communiste, mais avait assoupli un certain nombre de ses positions politiques et internationales, avait un peu ouvert ses frontières, entre autres parce qu'on y fait du tourisme et que c'est très important pour la Hongrie encore aujourd'hui. Hein, faut aller au lac Balaton. Et donc il y a un certain nombre d'Allemands de l'Allemagne de l'Est qui sont passés par la Hongrie pour arriver en Autriche, donc pays occidental, neutre, et de là en Allemagne de l'Ouest, etc. Donc là encore, ça fait partie de tout un mouvement. Alors de l'autre côté, en Allemagne de l'Ouest, c'était la surprise ?
Bah oui, bien sûr. Je crois que celui qui dit le contraire n'était pas la vérité. C'était le fait, le 9 novembre, c'était une surprise. Tout de même, toute l'année 89... était caractérisé par pas mal de mouvements. Les développements en Pologne déjà, là en fait ça a considérablement changé. D'abord le mouvement opprimé a eu plus de réussite, il avait un changement de gouvernement. Ensuite il avait place Tiananmen en juin 89, oppression brutale d'une révolte qui était peut-être à peu près comparable. Ensuite tous ces mouvements vers Prague, vers Budapest, le rideau de fer n'était plus étanche, donc il pouvait venir. Ensuite, il avait toutes les manifestations, celles de Leipzig sont les plus connues, mais il y en avait dans d'autres villes aussi, qui laissaient penser qu'il y a quelque chose dans l'air. Mais que quelqu'un allait se planter à la télé, dire une bêtise, ensuite le rideau de fer est ouvert, on ne pouvait pas s'imaginer ça.
Bien que le jour même donc de ce 9 novembre 89, il y a ce ministre dont j'ai oublié le nom,
Schabowski
qui annonce qu'on peut traverser pour passer à l'ouest, et il y a un mouvement de foule considérable, alors que les gardes frontières d'Allemagne de l'Est n'ont reçu aucun ordre, ne savent pas ce qu'il faut faire, et heureusement ils ne tirent pas. Et il y en a un qui ouvre la barrière et qui laisse passer la foule. Ça, c'est le début de l'affaire. Un dernier mot avant qu'on ait une petite respiration. Et puis je dis tout de suite à l'auditeur ou l'auditrice qui vient de téléphoner en demandant qu'on parle du rôle des églises protestantes dans l'ex-RDA pour la chute du mur. Évidemment que nous allons en parler dans quelques minutes. Mais dernière question pour l'instant. L'une, l'autre répondra. Vous dites, oui, ça a quand même été la surprise. Est-ce qu'on peut penser que du côté des dirigeants politiques du monde de l'époque, c'est aussi la surprise? Que pour que ce soit du côté russe, Gorbatchev, que ce soit du côté français, François Mitterrand, nous aurons l'occasion, je pense, d'en reparler tout à l'heure, ou même chez Helmut Kohl, le chancelier d'Allemagne de l'Ouest, on n'imagine pas. Enfin, moi, je pense que ça a été aussi la surprise, non?
Moi, je pense que oui, parce que la classe politique en Allemagne de l'Est avait une position confortable, une vie agréable. Donc je pense que c'était vraiment plus la population qui en souffre et qui ne voulait plus continuer, effectivement.
Alors nous allons quelques instants respirer et entendre le mur tomber en musique.
Fréquence protestante, le Midi Magazine, Jacques Fischer.
Oui, aujourd'hui, avec Yvonne Goehl et Carsten Plamann, qui l'une en Allemagne de l'Est, l'autre en Allemagne de l'Ouest, mais tout près de la frontière qui séparait les deux Allemagnes, ont vécu ces moments de la chute du mur de Berlin le 9 novembre 89. Alors maintenant, j'aimerais que vous nous racontiez, c'est peut-être un peu indiscret, mais tant pis, on ne le répétera à personne. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez vécu ces jours-là, juste avant, le jour de la chute du mur et les jours après, vous personnellement et puis ceux qui vous entourent, Yvonne Goehl.
Alors, moi j'étais à l'école à l'époque et moi je me rappelle que on a entendu à la télé que voilà on pouvait passer la frontière. Je me rappelle que tout le monde se méfiait, qu'on n'y croyait pas vraiment. Et puis après il y a les premières personnes, parce que nous on est à peu près 5-6 heures en voiture à l'époque de Berlin. Donc il y a les premières personnes qui sont parties à Berlin. Pour aller voir, pour aller vérifier eux-mêmes si on pouvait vraiment passer la frontière. Donc ça s'est fait encore plus par bouche à oreille, à entendre ce que les gens disaient, ce qu'ils rapportaient. Et donc les jours qui ont suivi la chute, moi je me rappelle mes grands-parents nous ont amené, moi et mon frère, parce que ma mère, elle était hospitalisée à l'époque, et on est parti à Berlin, parce que c'était tellement incroyable qu'on se disait, ben, s'il referme, il faut au moins que vous êtes allé une fois dans l'Ouest. Et aussi pour mon grand-père, qui n'a jamais pu y aller, ben, d'avoir la possibilité de le voir. Parce que ma grand-mère, qui a pu y aller, elle nous racontait comment c'était, mais c'était tellement incroyable, on ne pouvait pas s'imaginer. Donc on y allait, on est parti à Berlin pour une journée, et on a vu des supermarchés, des grands magasins, ce qui était pour nous... on n'avait jamais vu ça. Donc moi, je vois toujours l'image en tête. Ça, c'était, je crois, le plus, ce qui nous a marqué, des supermarchés avec des rayons pleins, qui brillaient, pleins de couleurs. On n'a même pas acheté quoi que ce soit. C'était juste pour regarder, vraiment visiter des magasins et de voir cette abondance, cet incroyable choix, et qu'on pouvait prendre ce qu'on voulait, aller à la caisse et le payer. Ça, c'était quelque chose qui nous avait marqué. Et d'ailleurs, oui, il y avait à l'époque aussi, ils appelaient ça l'argent d'accueil. Donc il y a tout le monde, bien sûr, qui allait aussi pour encaisser, c'était à l'époque 100 démarques par personne, je crois, par adulte, qu'on recevait de l'État d'Allemagne de l'Ouest. Et donc, tout le monde voulait au moins avoir cet argent, même si on n'était pas sûr de pouvoir le dépenser encore plus tard. Donc,
Et quelle était l'atmosphère ? Il y avait du monde, il y avait ça...
Oui, il y avait énormément de monde.
Ça faisait du bruit ?
Il y avait énormément de monde, tout le monde y allait. Moi, je me rappelle à l'école, il ne fallait même plus faire de mots d'excuses parce que tout le monde était parti. C'était vraiment... On a vu au travail, pareil, on pouvait s'absenter, c'était complètement, voilà, tout le monde était parti.
Et est-ce que, quand vous avez franchi le mur, je ne sais pas où, mais vous avez traversé, est-ce que la rencontre entre les Allemands venant de l'Est et ceux qui étaient restés vivre à l'Ouest a été facile, je veux dire? Est-ce qu'il y avait un sentiment de, comment dire, de fraternité telle que, ou au contraire, est-ce qu'il y avait peut-être des soupçons des uns sur les autres? Non, l'atmosphère était...
À Berlin, moi, je l'ai plutôt vécu détendu, que les habitants de l'Ouest, ils étaient presque habitués. Moi, je me rappelle juste d'un épisode, en fait, nous, on était tellement habitués de toujours prévoir tout à l'avance. On avait prévu aussi nos sandwichs, tout à l'avance. Et donc, on s'était arrêté dans la rue pour manger nos sandwichs. Et il y a un Allemand de l'Ouest qui est venu vers nous et qui a dit, mais pauvres, vous avez vécu dans l'Est. Moi, j'ai toujours vécu ici, j'ai eu tout ce que je voulais. Et il nous a donné de l'argent pour qu'on puisse acheter quelque chose au supermarché. Donc c'était plutôt très accueillant. Voilà.
Carsten Plarmann, vous avez vécu ça comment, de votre côté?
Alors tout d'abord, on a eu la nouvelle à la télé, comme tout le monde à l'Ouest. On avait une petite télé dans la cuisine, c'est une colocation, donc on a regardé ça, on a ouvert une bouteille de champagne qui traînait depuis une boum, mais c'était une dîne quelconque. Ensuite, on est allé en ville. Et en fait, Göttingen, c'est la première grande ville derrière la frontière, mais c'est une ville dont le centre-ville est relativement petit. Et il avait une affluence absolument énorme, il avait des scènes tumultueuses, mais dans un bon sens, quoi. C'était vraiment une fraternisation. Il me manque les mots pour décrire tout ça. Donc, effectivement, je crois qu'on a été assez accueillants. Il y a des gens qui ont failli dormir chez nous à la maison, mais qui sont quand même rentrés pour revenir le lendemain. Le lendemain, on est allé vers la frontière, vers Duderstadt. On terminé dans des embouteillages, c'était pas grave, mais on a vu cet afflux de petites trabantes de l'autre côté.
Les trabantes, c'était ces petites voitures fabriquées, qui, paraît-il, aujourd'hui ont encore un succès considérable, parce que c'est une espèce de dinosaure survivant d'une époque lointaine.
Voilà. Effectivement, au centre-ville aussi, il y avait beaucoup de gens qui ont utilisé leur argent pour acheter quelque chose, des lecteurs cassettes, machin, etc. Ça, c'était peut-être une petite question qu'on s'est posée, mais c'est ça qui les intéresse. Un minable lecteur cassette, j'ai quelque chose. Mais effectivement, il y avait pas mal de gens qui ont dépensé leur argent tout de suite, peut-être dans le réflexe qu'après, ça serait fermé, ou après, il n'en aura plus, ou... mais bon, ça c'est un détail à l'histoire, c'était vraiment une énorme fête dans la petite ville où j'ai fait mes études.
Est-ce que, on dit toujours le mur de Berlin, alors on a les images, la porte de Brandebourg, etc., les gens avec des pioches et des trucs qui ramassent leur bout de mur pour le garder en souvenir, etc., mais est-ce que ça veut dire que cette ouverture... c'est fait tout le long de la frontière au travers de l'Allemagne.
Tout à fait, oui.
Tout à fait. Pas seulement à Berlin.
Non,
pas tout à fait. Chez nous, c'était près du Harz, c'est une petite montagne en Basse-Saxe. C'était vraiment l'arrière-pays. Il n'y a rien du tout. Sinon, s'il n'y avait pas la frontière, il y aurait de la circulation. Mais à l'époque, c'était vraiment les tout derniers bleds de la province. Et tout d'un coup, c'est ouvert là-bas. Donc c'est par là-bas que les gens arrivent vers Göttingen. Et c'était le long de la frontière. C'était aussi plus loin dans le nord, à Lübeck.
Alors ça, c'est un événement quand même important. Il faut dire que la conséquence, c'est pas que le régime de la République démocratique d'Allemagne, la RDA, s'est effondré avec le mur. Ça encore, le gouvernement a continué. Alors si le leader, qui était Erich Honecker, a passé la main, d'abord il était tombé très malade, il a passé la main. Moi, je plains toujours les derniers, vous savez. J'aurais pas voulu être Egon Krenz, et ramasser le truc en sachant probablement que ça n'allait pas durer encore beaucoup.
Vu la carrière qu'il a faite avant, j'ai pas trop de pitié pour lui.
Non, je veux dire, j'aurais pas voulu être à sa place, à être obligé de faire ça. Mais oui, ça a duré encore un certain temps, la RDA. Et puis, on est allé vers la réunification, dont nous parlerons dans quelques instants. Alors, on disait tout à l'heure, voilà, c'est pas un événement subi, c'est à l'intérieur d'un mouvement commencé depuis un moment de protestation. Et là, il faut que vous me disiez ce qui s'est passé avec les églises protestantes, évidemment en majorité, dans l'ex-RDA. Puisque dans un certain nombre de villes, il s'est passé des rassemblements, et le plus connu, c'est à Leipzig, dans l'église de Saint-Nicolas. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, c'est un mouvement spontané, c'est quoi? Moi, quelqu'un m'a dit, non, ce sont les pasteurs qui ont invité les gens à se rassembler tel jour, à telle heure, etc. Est-ce que c'est une initiative des églises?
Tout à fait, parce qu'en fait, comme je disais déjà l'été avant, on sentait une tension accrue, et le refuge pour les gens, c'était l'église. Donc, depuis l'été, on se rassemblait régulièrement, surtout dans les grandes villes, pour faire des prières de paix. On priait que ça se passe bien, parce qu'on sentait autour tous les gens qui sont allés via la Hongrie, tout ça, et on voulait que ça se passe bien. Donc, les églises ont été toujours un endroit de refuge où on pouvait encore se rassembler. Et en même temps, c'était des endroits qui étaient très surveillés par la Stasi.
La Stasi, donc, c'est la police, sécurité d'État, tristement célèbre, et envahissante avec je ne sais plus combien de membres.
Je ne sais pas, 100 000, 150 000.
Oui, c'est extraordinaire.
15 millions d'habitants.
Ah ouais, c'est C'est absolument considérable. Alors, voilà, mais on me dit aussi que, bon, bah, les pasteurs ont invité à se rassembler, et il y a eu, à Leipzig, par exemple, des rassemblements qui ont fini par être réguliers toutes les semaines. C'était le lundi ou...
Le lundi.
Régulièrement, donc ça devenait une habitude. Et on dit que les pasteurs étaient là et... En fait, ils n'hésitaient pas à monter en chaire et à prêcher l'évangile. C'est-à-dire à dire qu'il fallait que ça se passe doucement, qu'il fallait, etc., comme vous disiez, les prières pour les mouvements pacifiques. Non, vous réagissez, M. Plame.
C'est une histoire un peu plus longue, en fait, parce que, bon, effectivement, les églises en Allemagne de l'Est étaient des endroits où... il y avait plus de monde pas d'accord avec le régime qu'ailleurs, évidemment. Mmh. Par contre, ce n'était pas particulièrement conspiratif parce que ça ne pouvait pas l'être. La Stasi était omniprésente. C'était plutôt un point de cristallisation pour les mouvements de protestation. Par exemple, j'ai récemment survolé la page web de l'église Nikolaï à Leipzig. Le soir du lundi précédent, l'ouverture du mur, l'église elle est pleine de Stasi. Donc c'était, en fait, il dit le pasteur, il dit, bon, une fois, on les a dans l'église pour leur raconter la parole de Dieu. C'était plutôt l'événement qui avait lieu régulièrement, qui a cristallisé les manifestations aussi d'autres gens qui n'étaient pas forcément profondément chrétiens, mais c'était probablement l'occasion qui a quand même déclenché une bonne partie de ces mouvements de protestation.
Oui, c'est-à-dire que vous estimez que là, les églises et les pasteurs ont eu un rôle très important, oui, déterminant.
Oui, tout à fait.
Ah, oui.
Il y en a beaucoup aussi qui sont entrés en politique, oui, de toutes, oui, les couleurs d'ailleurs.
Mmh. Mmh. Oui, ça. Et donc, vous avez vécu ces moments-là, mais... Qu'est-ce qui s'est passé après ? Vous êtes retourné chez vous, Yvonne Gull ?
Oui. Oui.
Vous êtes retourné à l'école ?
On est retourné à l'école, mais bon, on n'avait pas eu vraiment beaucoup de cours. Justement, pour l'église, nous, ce qu'on avait constaté, c'était après la chute du mur, comme c'était un temps de changement, il y a eu un très grand afflux à l'église. Parce qu'il y a beaucoup de monde aussi qui avant, n'osait pas pratiquer sa foi, qui allait de tout d'un coup à l'église. Et donc, ça, c'était plutôt bien. Mais ce qui était, je pense, difficile pour l'Église aussi et pour les gens qui étaient actifs déjà avant la chute, c'était que de tout d'un coup, il y avait aussi ceux qu'on savait, par exemple, la directrice d'école où on était sûr qu'elle était à la Stasi, qu'elle était communiste et tout. Tout d'un coup, elle se trouve au premier rang de l'Église. Et ça, c'était très, très dur pour les gens à comprendre que l'Église, elle est ouverte pour tout le monde. Les pasteurs aussi étaient obligés d'accueillir tout le monde. Et que même pour les gens qui étaient dans le conseil de l'Église, tout ça, qui ont été souvent oppressés par la Stasi, qui n'ont pas pu faire des études ou qui n'ont pas pu choisir leur profession, tout ça, qu'il y a ces gens-là qui arrivent aussi tout d'un coup à l'Église et qui se trouvent au premier rang et qu'il faut accueillir aussi. Et donc je pense que ça, c'était... difficile.
Mais si j'ai bien compris, tout ça, ça a été comme un grand enthousiasme sur le moment, etc. Et puis cet enthousiasme, un jour, il est retombé. Les églises ne sont plus aujourd'hui aussi pleines qu'elles l'étaient à l'époque, si j'ai bien compris.
Ça, c'est vrai. Comme je disais, je pense que c'était un temps de changement. Et les gens, ils avaient besoin de s'accrocher un peu aussi à des traditions. Tout d'un coup, ça revenait d'avant. Et donc, ils allaient plus à l'église. Après, il y a eu, après la réunification, d'autres déceptions, le chômage, d'autres soucis qui sont arrivés qu'on n'a pas connus avant. Et donc là, ça se ralentit, on va dire.
Et à l'Ouest, M. Plamann, qu'est-ce qui s'est passé avec les églises de l'Ouest ?
Alors, les églises à l'Ouest, au cours des années 80, c'était mitigé. Il y avait, évidemment, on a regardé avec beaucoup de sympathie les évolutions à l'Est. Par contre, il y avait aussi ce massif mouvement de pacifisme fondamental. Donc il fallait désarmer, il fallait, vaudrait mieux être rouge que mort, etc. Donc ça, à mon avis, c'était, j'étais pas de ce côté-là, à mon avis ça a un tout petit peu trahi quand même les efforts à l'Est qui ont été faits pour la libération. C'était mitigé. Ensuite, il y avait une bonne partie de nous qui ont attendu beaucoup de ces mouvements à l'Est. Il y avait beaucoup de pasteurs, comme vous avez dit, beaucoup d'initiatives des églises. Et on avait l'espoir que ça allait apporter une valeur ajoutée à notre bonne vieille Bundesrepublik. Donc il y avait le mouvement de libération, c'est la première fois qu'une révolution a marché en Allemagne. La déception de notre côté, c'était un tout petit peu que personne n'a voté pour eux dans la suite, en 90. Il y avait une écrasante majorité pour Helmut Kohl. Et ces alternatives qui ont formé un parti, très intéressant à mon avis, ils ont eu, je ne sais pas, 2%. Et ensuite, bon, ça a continué. Maintenant, on parle beaucoup de ces années comme si c'était une profonde morosité collective, c'était difficile économiquement, etc. À mon avis, ça, par contre, ça, ce n'était pas prépondérant. C'était juste un peu revenu à la normale. On n'a pas retrouvé un paysage politique bouleversé.
Alors malheureusement, nous arrivons à la fin de notre entretien et il faut, c'est pas le sujet principal de l'émission, mais il faut quand même bien dire les suites. Les suites, c'est la réunification allemande. Là encore, il y a comme une espèce de flou artistique. Il y a ceux qui sont très contre Margaret Thatcher en Grande-Bretagne. Il y a ceux qui freinent tout en proclamant qu'après tout, c'est au peuple allemand de décider. C'est François Mitterrand qui se dit... Il a voulu s'en justifier avec un livre qu'il a écrit après, qui s'appelle « L'Allemagne et la France », juste le dernier temps de sa vie. Et puis, il y a Helmut Kohl qui croit que ça ne va pas se faire en 5 minutes...
Dans les 10 ans, le programme à 10 points stipule qu'on vise une réunification dans maximum 10 ans.
Et puis en fait, dans l'espace de pas, même pas un an après la chute du mur, c'est fait.
Tout à fait. Oui.
Donc il faut tout reconstruire autrement et c'est pas simple. Et alors aujourd'hui encore, c'est pas facile. Il y a quand même une différence entre l'Est et l'Ouest, il y a des problèmes de financiers, il y a des tas de choses. L'Allemagne de l'Ouest a donné, on m'a dit, 1200 milliards d'euros pour la reconstruction, la remise à niveau de l'Est. Et on dit que sur le plan social, encore aujourd'hui, l'Est et l'Ouest, ce n'est pas la même chose.
Tout à fait. Dans ma région, il y a aujourd'hui 25 à 30% de chômage.
Ah oui, c'est ça.
Donc ça ne représente pas du tout le taux allemand en moyenne qui est autour de 7-8%, je crois.
Et est-ce que, parce que quand on parle de l'Allemagne, de l'Ouest que nous avons connu, on voit toujours une Allemagne qui s'est reconstruite après la guerre très vite. Je me souviens d'avoir traversé en train l'Allemagne en 1951. Tout était illuminé partout, ça travaillait jour et nuit. Hein, on reconstruisait, et puis alors, on a reconstruit de belles choses, des villes superbes. Bon, mais aujourd'hui à l'Est,
tout à fait,
on a trouvé le même niveau, on a reconstruit ou pas?
Tout est reconstruit. Si vous avez les autoroutes qui sont meilleures que dans l'Ouest, vous avez les villes qui brillent, qui sont toutes refaites, qui sont magnifiques, mais économiquement, ça reste difficile. Et surtout pour les gens qui sont au chômage, qui retrouvent pas de travail parce que toute l'industrie, tout est déjà dans l'Ouest. Donc on n'a pas besoin d'une deuxième fois dans l'Est. Donc,
On me dit qu'il y a des nostalgiques de la RDA, des gens qui regrettent la RDA. C'est vrai ça?
Je pense qu'il y en a, effectivement, parce que comme je disais, avant tout était tellement planifié qu'on n'avait pas de soucis à se faire, tout était planifié, on ne connaissait pas de chômage, mais moi, dans ma famille, c'était la meilleure chose qui a pu nous arriver. Ma mère, d'ailleurs, quand je lui ai parlé de la mission, elle m'a dit, bah, c'est simple, tu n'aurais pas fait ton bac, tu n'aurais pas fait des études, tu ne seras pas à Paris aujourd'hui. Voilà.
Donc, ça n'a pas été simple, mais finalement, quand même, les choses ont avancé, même s'il y a encore des difficultés. Oui.
Bah, je crois qu'on s'en est sorti pas mal. Hein. Il faut quand même aussi regarder à quel point c'était en faillite avant.
Tout à fait.
Alors, voilà. Et aussi, qu'il y ait 25% de chômage dans certaines régions à l'Est, il y a aussi beaucoup de gens qui sont partis.
Ouais.
Donc, c'est une espèce de résidu. C'est très compliqué. Je n'aimerais pas dire en un mot, c'est pas bien, c'est bien.
Oui, je suis d'accord. Ouais, c'est pas évident.
On est au travail, on s'en sort, je crois que ça va.
Alors voilà, bon, on va être obligé de s'arrêter. Je crois qu'il faut dire que malheureusement, tout n'est pas résolu encore. Que l'histoire du mur de Berlin évoque aujourd'hui d'autres murs. Alors tout le monde se précipite sur l'exemple du mur israélien, 730 km, et puis c'est pas fini, mais il y a le mur entre les USA et le Mexique, hein, contre les clandestins, 1200 km de long.
Mais c'est un mur contre les gens qui veulent rentrer, c'est pas un mur.
Oui, mais ça, il y a des murs un peu partout. Il y a un mur entre l'Inde et le Bangladesh, 4000 km, hein. Et puis il y a le Maroc et le Sahara occidental. Bon, il y a des murs qui se dressent partout. L'histoire n'est pas terminée. C'est Fukuyama, l'Américain qui. D'origine japonaise, qui à un moment de la chute du mur a dit c'est la fin de l'histoire. Bah non, c'est pas la fin de l'histoire. Hein.
C'est peut-être le début. Hein.
C'est peut-être le début. Monsieur Plama, un dernier mot, vous vouliez signaler des livres.
Oui, alors si vous lisez l'allemand, si vous trouvez des traductions, en fait, ce qui nous a pas mal renseigné sur la manière de l'Est à l'époque, c'était un livre de Monica Maron. Flug, Asche, aller chercher s'il existe une traduction française, ou encore Rainer Kunze, Die wunderbaren Jahre. C'est un peu différent des bouquins d'histoire qui décrivent les grandes évolutions. Là, je crois que ce sont des photographies assez intéressantes sur la vie quotidienne.
Et je vous signale 4 titres. Monsieur Picaper a écrit un Berlin Stasi, c'est très intéressant. Michel Meyer, Histoire secrète de la chute du mur de Berlin. Les avant-mémoires de Mikhail Gorbatchev, ce n'est pas inutile. Et puis, c'était paru, mais c'est réédité, de l'Allemagne et de la France, de François Mitterrand. Carsten Plamann, Yvonne Gueule, merci d'être venu jusqu'à nous et peut-être à une autre fois.
Merci.
Venez d'écouter sur Fréquence Protestante le Midi Magazine de Jacques Fischer sur, il y a 20 ans, les églises et la chute du mur de Berlin.
Fréquence Protestante, la radio qui vous écoute. À Paris, c'est sur 100.7. Fréquence Protestante, c'est aussi sur Internet. fréquenceprotestante.com. Écoutez, réagissez, découvrez la grille des programmes. Grâce à Internet, vous pouvez écouter Fréquence Protestante partout dans le monde. Alors pour retrouver votre radio, une seule adresse, fréquenceprotestante.com.
Et que faites-vous ce soir ? Nous sommes le mardi 10 novembre. Que faites-vous ce soir de 19 à 22 heures ? Je vous propose une conférence débat sur le thème « Après le choc, réparer ». Ce sont les amis de l'aumônerie protestante aux armées qui l'organisent. En l'église réformée qui se trouve 58 rue Madame dans le 6e à Paris, métro Rennes, ligne 12 ou Saint-Placide, ligne 4. Ce sera animé par l'ingénieur en chef de l'armement, Éric Padieu, après le choc, réparé en l'église réformée 58 rue Madame dans le 6e à Paris. Vous écoutez Fréquence Protestante et il est 13h. Je laisse tout de suite la parole à Catherine Clément-Grandcourt pour l'Armée du Salut.
Bonjour à tous et bienvenue pour l'émission de l'Armée du Salut. Emmanuel Olivier, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes responsable du bateau de l'Armée du Salut, bateau nommé Amiral Georgette Gogibus. Alors on peut rappeler que les anciens auditeurs d'ailleurs se rappelleront l'Armée du Salut a eu un bateau autrefois qui s'appelait la péniche Louise-Catherine, qui était amarrée au quai d'Austerlitz, qui a été inaugurée en 1930 et qui a cessé d'être lieu d'accueil en 1994. Alors, nouveau bateau, l'Amiral Georgette Gogibus. Il est opérationnel. Vous étiez venu nous parler du projet, mais maintenant, ça y est.
Ça y est, on a ouvert depuis le 5 octobre à nos premiers résidents. Donc qui sont venus, les premiers résidents venaient du 92. Puis on a eu des résidents venant de Paris. Donc on est vraiment une structure qui somme sur et le 92 et le 75.
Alors vous êtes amarré au pont de Neuilly, on vous voit quand on traverse le pont, vous êtes visible.
Tout à fait, au niveau du pont de Neuilly, sur la commune de Neuilly, qui nous a accepté avec notre projet, avec le public qu'on souhaitait accueillir.
Alors ce qui est sympathique, c'est que c'est l'Armée du Salut, c'est un bateau de l'Armée du Salut, mais il y a autour de vous un partenariat.
Tout à fait.
Qui fonctionne.
Voilà, on a un partenariat, on est un peu sur un projet innovant, donc on a un partenariat déjà sur les orientations, donc on travaille aussi bien avec les équipes de Maraude, le 115 et notamment la Croix-Rouge du 92, donc qui vont à la rencontre des personnes dans la rue, dans les tentes, dans les squats, et donc qui nous orientent des personnes en les accompagnant. On a pareil un partenariat